19h sur Europe 1.
Si ça devait se confirmer, nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la Petite Couronne en zone d'alerte maximale, et ce, dès lundi.
Paris concentre toutes les inquiétudes ce soir. Pas de tour de vis supplémentaire pour l'instant, mais il y aura une nouvelle évaluation donc dès le début de la semaine prochaine et peut-être de nouvelles mesures drastiques.
Oui, la situation dans la capitale est très préoccupante. Elle est inquiétante également à Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne, mais ça va un peu mieux du côté de Marseille, Bordeaux et Nice.
Et on fait le point bien sûr dès le début de ce journal sur ces annonces du ministre de la Santé.
Des annonces qui ont encore accentué l'inquiétude des cafetiers et restaurateurs à Paris bien sûr, qui redoutent de nouvelles fermetures dès lundi.
Dans l'actualité également, les syndicats de magistrats qui estiment que le ministre de la Justice ne peut plus être leur interlocuteur. Ils demandent que cesse ce conflit d'intérêts. Ils en appellent maintenant directement à Emmanuel Macron.
La France accuse la Turquie d'envoyer des djihadistes syriens pour combattre dans le Haut-Karabakh. Accusation grave, on y reviendra avec notre spécialiste. Ce sera l'œil de Didier François.
Paris, Marseille et Rennes connaissent leurs futurs adversaires pour les phases de poule de Ligue des Champions. Et le nouveau consultant foot d'Europe 1, Reynald Pedros, sera en direct avec nous pour commenter ce tirage au sort.
La tendance météo avec Anissa. Prudence, hein, cette nuit et demain, la tempête Alex touche l'ouest du pays.
Oui, la tempête Alex, effectivement, va toucher la Bretagne dès cette nuit, à partir de minuit, avec 4 départements en vigilance orange, le Morbihan en rouge. Dans le sud, c'est un fort épisode méditerranéen qui touche la région PACA, 4 départements en vigilance. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Olivier Véran a donc fait ce soir un nouveau point sur la situation sanitaire, très attendue, comme à chaque fois.
Et le ministre de la Santé est donc venu, Anne Le Gall, avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles.
Voilà, à ce stade, pas de nouvelles restrictions annoncées, mais on va commencer par les mauvaises nouvelles. Le ministre de la Santé a rappelé, courbe à l'appui, que nous étions dans une phase d'aggravation de l'épidémie, avec un virus qui touche de plus en plus les populations âgées et des tensions qui commencent à se faire sentir dans certains hôpitaux, dans les grandes villes notamment. Parmi les zones qui était déjà en zone d'alerte renforcée. La situation s'est dégradée, notamment dans 5 métropoles, Lyon, Lille, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne. Dans ces territoires déjà concernés par les fermetures des bars à 22h, celle des salles de sport, interdiction des grands rassemblements, eh bien, on pourrait passer en zone d'alerte maximale la semaine prochaine, a prévenu le ministre. La situation à Paris est un peu plus tendue. La capitale a franchi depuis quelques heures les seuils qui devraient la faire basculer en zone d'alerte maximale comme Marseille. C'est pourquoi Paris et la Petite Couronne pourraient basculer en zone d'alerte maximale dès lundi. Pour les bonnes nouvelles, il y a un début d'embellie à Bordeaux, Nice et Marseille. C'est encourageant, mais la circulation du virus reste encore trop élevée. Il faut tenir, a indiqué Olivier Véran. Par ailleurs, concernant la fermeture des restaurants, le ministre dit avoir entendu les propositions de la profession pour que les établissements restent ouverts en respectant certaines règles.
Le gouvernement va, dans les prochains jours, examiner les propositions qui lui sont faites, c'est normal, par les représentants du secteur de la restauration et étudier des règles éventuelles qui pourraient permettre aux restaurants, y compris en zone d'alerte maximale, de rester en tout ou partie ouverts, mais avec des règles sanitaires renforcées pour permettre de limiter au maximum les risques de contamination.
Ces propositions seront soumises au Haut Conseil de la Santé publique. Si elles sont protectrices et contrôlables, ces mesures pourront s'appliquer et les restaurants d'Aix-Marseille, les restaurants de Guadeloupe et peut-être ceux de Paris, si Paris bascule en zone d'alerte maximale, ces restaurants pourront rester ouverts.
Situation très évolutive donc que l'on va suivre évidemment. Merci Anne Le Gall.
Cette conférence de presse a évidemment été suivie avec beaucoup d'attention par tous les restaurateurs et les cafetiers qui redoutent et qui redoutaient une nouvelle fermeture.
Oui, on vient d'entendre ce que vient de nous dire Anne. Hein. Ils ne sont toujours pas rassurés ce soir, en particulier à Paris, où ils ont encore cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Toujours plus d'incertitudes. Écoutez Juliette Cerdan. Elle est co-gérante de la brasserie Rosie dans le quartier de la Bastille.
C'est encore de l'incertitude, mais on commence à y être habitué depuis quelques mois, c'est-à-dire d'opérer un peu à l'aveugle, sans trop savoir où on va. C'est vraiment lassant parce que ça c'est hyper inquiétant, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, donc c'est compliqué à gérer. Même en cas de solution, on parvient à rester ouvert avec des mesures renforcées, ça pose aussi des questions parce qu'il va sûrement falloir encore réduire le nombre de tables. Nous, on est un restaurant assez gros qui a besoin de bouger, de tourner avec beaucoup de couverts. Donc déjà aujourd'hui, c'est compliqué. Alors on n'imagine même pas si on est encore plus restreint. Donc voilà, c'est qu'à un moment aussi, on est à la limite de la viabilité dans tous les cas. Voilà, encore une fois, on va encore 3 jours d'incertitude. Dimanche soir, on va encore se reposer des questions. Enfin, c'est de toute façon qu'on va commencer à passer plus de temps à chercher de l'information qu'autre chose parce qu'on cherche à se rassurer, on cherche à comprendre. Donc, on va encore attendre.
L'inquiétude de cette restauratrice parisienne au micro-Europe 1 de Pierre Herbulot.
Le ministre de la Santé qui a par ailleurs précisé que le travail restait à privilégier jusqu'à nouvel ordre. Le télétravail restait à privilégier jusqu'à nouvel ordre.
Oui, à ce propos, le géant de la restauration collective Elior vient d'annoncer à l'instant la suppression de 1888 postes en France dans sa branche dédiée à la restauration d'entreprises qui est sinistrée depuis l'épidémie de Covid qui a conduit donc les grandes entreprises notamment à mettre leurs salariés en télétravail.
19h05, la colère de la magistrature qui ne retourne pas. Les deux principaux syndicats sont toujours très remontés contre le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et ils en appellent cette fois directement au chef de l'État.
Ils ont été reçus d'ailleurs aujourd'hui à l'Élysée et fort des motions de défiance votées dans quasiment un tribunal sur deux en France, ils demandent au président de trouver une solution au conflit d'intérêts après l'ouverture d'une enquête administrative contre des procureurs du parquet national financier. En gros, ils reprochent au ministre de la Justice d'être à la fois juge et partie. Écoutez les représentantes de ces deux principaux syndicats. Céline Parizeau pour l'USM et Katia Dubreuil pour le syndicat de la magistrature.
Nous refusons de rencontrer un ministre qui n'a jamais répondu à nos sollicitations. Donc nous sommes en attente des propositions du président de la République à qui nous avons directement écrit. C'est pas pour rien que notre lettre ouverte, elle s'adressait à lui et pas au ministre.
Aujourd'hui, nous ne voulons plus lui parler. Donc ce n'est plus un interlocuteur pour nous, le ministre. Il faut que ce conflit d'intérêts cesse d'une manière ou d'une autre. C'est pas à nous de dire comment. C'est la responsabilité du président de la République qui est garant de l'indépendance de la justice. Mais il faut qu'il cesse parce qu'on ne peut pas, dans une démocratie, dans un état de droit, fonctionner avec un tel conflit d'intérêts, une telle confusion entre des intérêts privés et des intérêts publics. C'est peut-être précisément le contraire qu'on attend d'un garde des Sceaux.
Les représentantes des deux principaux syndicats de magistrats au micro-Europe 1 de Chloé Triomphe. Le républicain Gérard Larcher, réélu président du Sénat pour un quatrième mandat de 3 ans, très largement et dès le premier tour du scrutin.
L'actualité à l'étranger et l'appel commun ce soir des présidents russes, français et américains appellent à la cessation immédiate des hostilités au Haut-Karabakh.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors il y a cet appel effectivement, et puis il y a aussi ces mots d'Emmanuel Macron qui confirment des accusations portées contre la Turquie par Vladimir Poutine. Il affirme lui aussi, Emmanuel Macron, avoir des informations sur la présence dans les combats d'islamistes syriens.
Alors absolument, on a eu des doutes d'ailleurs dès le début de l'hostilité, dès lundi, suite à des écoutes de communication azérie par les Arméniens qui ont intercepté des conversations en arabe syrien sur les réseaux utilisés par les attaquants. Et la Russie, qui a d'ailleurs une forte capacité de renseignement dans la zone, a dénoncé dès hier la présence de ces combattants islamistes syriens recrutés par la Turquie dans les rangs de l'armée azérie, appelant le président turc Recep Erdogan à empêcher le recours à des terroristes et des mercenaires étrangers dans la région. Donc Vladimir Poutine a ensuite discuté de l'affaire au téléphone avec le président Emmanuel Macron, qui a demandé à ses services spécialisés une confirmation autonome de cette accusation. Elle lui a été donnée avec un degré de précision suffisamment élevé pour que l'Élysée emboîte officiellement le pas au Kremlin, ce qui est plutôt inhabituel, et exige à son tour que la Turquie mette fin à ce transfert de combattants issus des groupes djihadistes syriens vers le Karabakh.
Ce qui est ni plus ni moins, Didier, qu'une répétition du scénario libyen.
Oui, tout à fait. Fourniture massive d'armement et de mercenaires à l'un des deux camps du conflit afin de changer fondamentalement le rapport de force sur le terrain, et cela au mépris des médiations engagées par la communauté internationale pour trouver une solution négociée. Et si vous aviez encore des doutes sur la réalité de ce recrutement de combattants islamistes syriens par la Turquie, eh bien je vous conseille d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux où les djihadistes des brigades El Amchat ou Sultan Mourad ne cachent en rien leur activité militaire, ni en Libye d'ailleurs, ni au Karabakh. Ils y publient des photos de leur trajet en avion turc entre Ankara et l'Azerbaïdjan, mais également les portraits et les identités de ceux d'entre eux tombés au combat contre les Arméniens. Il y en a déjà 3 depuis le début.
L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Merci Didier.
Et puis autre actualité internationale, Washington parle d'un accord historique. Le Liban et Israël annoncent des pourparlers sous la médiation de l'ONU sur leurs frontières maritimes et terrestres.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et la suite de votre journal avec Isabelle Millet à 19h11. Alors il y avait, paraît-il, un tirage au sort important cet après-midi, celui des phases de poule de la Ligue des Champions.
Et oui, et pour en parler avec nous ce soir en direct, Reynald Pedros, ancien international français et nouveau consultant foot d'Europe 1. On est très heureux de vous accueillir. Bonsoir et bienvenue Reynald.
Merci, bonsoir, je suis ravi d'être là.
Bienvenue, bienvenue.
Bienvenue. Alors, trois clubs français sont concernés par ce tirage au sort. Le PSG, l'OM et Rennes. Tous les trois connaissent donc leurs adversaires maintenant pour la phase de poule. Alors, on va dire un mot, si vous le voulez bien, sur chacun de ces clubs. Paris, d'abord, qui est dans le groupe H, avec notamment des retrouvailles avec Manchester United.
Oui, des retrouvailles attendues, on va dire, parce que c'est vrai que Manchester United avait éliminé le PSG en 2019 lors des huitièmes de finale et au match retour. Et c'est vrai que c'est le match phare de cette poule. Après, il y a aussi Leipzig qui est dans ce groupe, Leipzig que le PSG a éliminé lors de la dernière Ligue des Champions en demi-finale.
Ouais.
Et puis un petit aussi. Dernier quoi qui est Istanbul Başakşehir. Donc on ne sait pas trop ce que ça peut donner cette dernière équipe, mais le PSG est favori. Hein.
Bon, et c'est un groupe abordable pour Marseille ?
C'est un groupe qui est abordable. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Après, l'ogre de ce groupe, c'est Manchester City, bien sûr, avec Pep Guardiola qui veut absolument gagner cette Ligue des Champions avec City et qui n'y arrive pas. Après, le petit clin d'œil, c'est le retour de Valbuena avec l'Olympiakos à Marseille. Ça sera sympa de voir ça. Et puis aussi un deuxième petit clin d'œil. C'est le retour de l'entraîneur marseillais Villas-Boas à Porto, que Porto est dans le groupe de Marseille.
Donc Manchester City, Olympiakos, Porto pour Marseille, et puis il y a Rennes aussi, Rénal, qui participe pour la première fois de son histoire à cette compétition. Et ça va être compliqué, hein, parce que les Rennais joueront notamment contre Chelsea.
Oui, alors Chelsea, c'est aussi un peu l'ogre de ce groupe. Hein. Chelsea a énormément recruté cette année pour gagner la Première Ligue. Après, il y a deux petits nouveaux dans ce groupe. Il y a Rennes. Il y a Krasnodar aussi qui joue pour la première fois aussi la Ligue des Champions. Krasnodar où joue aussi Rémi Cabella, un Français. Et puis cette dernière équipe, c'est Séville, le FC Séville qui a gagné la dernière Europa League. Donc c'est un groupe qui est abordable pour les Rennais, bien sûr. Mais il y a quand même un gros favori dans ce groupe, c'est Chelsea.
Bon, et à ce stade, Rénal, je ne vous demande pas de pronostic, c'est un peu tôt, non?
Oh, je peux essayer de vous donner le pronostic du PSG. Je pense que le PSG va terminer premier de son groupe. Après, sur Marseille et Rennes, c'est assez ouvert, je dirais. Tout dépendra de l'état de forme du moment, parce qu'on sait aussi que dans ces périodes-là, sur les débuts des poules, les grosses cylindrées ne sont pas toujours prêtes. Et ça peut permettre aux équipes qui sont censées être un peu moins fortes de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Ouais.
Bon, on suivra ça en tout cas. Merci Rénal.
On aura l'occasion de vous entendre régulièrement sur notre antenne, Rénal Pedros, puisque vous êtes le nouveau consultant foot d'Europe 1.
Et on est ravis de vous accueillir encore une fois. 19h14, un petit tour par Roland Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Axel May, on vous retrouve en direct avec la dernière Française en lice aujourd'hui qui est actuellement sur le cours central.
Oui, Fiona Ferro, sa rencontre était prévue sur le cours Suzanne Lenglen et puis elle dispute finalement son deuxième tour sur le cours central. Fiona Ferro, 49e mondiale, elle affronte la Kazakh Elina Rybakina, 18e mondiale et c'est bien parti pour la Française puisqu'elle a remporté avec autorité le premier set 6-3. Il y a un jeu partout dans le deuxième set, service à suivre pour Fiona Ferro et si elle se qualifie, ce serait le meilleur résultat de sa jeune carrière à Paris et elle retrouverait au troisième tour Caroline Garcia et la surprise Clara Burel qui sont déjà qualifiés.
Ben, on espère pour elle. Merci beaucoup en tout cas Axel May en direct de Roland-Garros.
Merci Isabelle. À demain. La météo avec Anissa, l'ouest et le sud-est fortement touchés demain avec de nombreuses vigilances. Le mot d'ordre ce soir, c'est rester prudent.
Hein. Oui, très prudent, avec 5 départements de Bretagne en vigilance orange pour pluie, inondation et vent violent. Le département du Morbihan, et c'est là qu'il va falloir être vraiment vigilant, le département du Morbihan, lui, est placé en vigilance rouge. La vigilance rouge, c'est la vigilance absolue avec des déplacements presque interdits. Il va falloir être très vigilant, surtout en bord de mer. On attend des rafales jusqu'à 170 km/h, notamment sur les îles. Il pleut donc demain toute la journée sur une grande partie du pays. Dans le sud-est, là, c'est pas la tempête Alex. C'est un épisode méditerranéen très fort, lié bien sûr à la tempête. Il va toucher les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Var et les Alpes-Maritimes, placés en vigilance orange aux orages. D'ailleurs, les établissements scolaires et les crèches seront fermés demain dans les Alpes-Maritimes. Sur le reste du pays, c'est un temps qui reste très pluvieux. Dans l'après-midi, sur la moitié ouest, vous aurez peut-être la chance de voir quelques rayons de soleil.
Ah, j'essaye quand même de trouver une bonne nouvelle. Merci Anissa, merci.